Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour. Un mois, jour pour jour, après le commencement de la Première Guerre mondiale, Giacomo della Chiesa est élu pape. Il succède à Pie X et prend le nom de Benoît en souvenir du canoniste et de l'orientaliste Benoît XIV. Immédiatement, le nouveau pape, Benoît XV, se trouve dans une situation non pas inédite, mais politiquement et religieusement inconfortable. Cette situation, et de manière plus précise, les premières années de ce pontificat, n'ont guère fait l'objet en France de grandes études. Pourtant, elle renvoie à bien des questions. Le pape Benoît XV eut-il une position pro-germanique, comme l'historiographie l'a souvent dit ? Quelle place pouvait avoir la papauté, alors que depuis 1870, le pouvoir temporel du pape était en vacances ? Surtout, que fit Benoît XV pour mettre fin à l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité et quels avantages a-t-il pu tirer de ce véritable bouleversement des relations internationales ? Eh bien, l'historienne Nathalie Renoton s'est posé toutes ces questions. Elle publie un ouvrage aux éditions du Cerf intitulé « La colombe et les tranchées, les tentatives de paix de Benoît XV pendant la Grande Guerre ». Nathalie Renoton, bonjour.
Bonjour monsieur.
Alors, vous êtes doctoresse lettres, diplômée en histoire contemporaine des relations internationales. Vous avez été l'élève notamment de Georges-Henri Soutou, que nous avons reçu à ce micro. Comment êtes-vous arrivée, Nathalie Renoton, à travailler sur un tel sujet qui, comme je le disais tout à l'heure, est complètement inédit en France ?
Oui, c'est exact. Du moins, à l'époque où j'ai commencé mes recherches dans les archives du Saint-Siège, il n'y avait pas d'ouvrage scientifique sur la question. Alors, j'ai eu l'occasion d'habiter pendant 3 années à Rome. Et cette occasion m'a permis donc d'accéder aux archives du Saint-Siège. Je commençais à ce moment-là un DEA qui s'est poursuivi donc en une thèse de doctorat. Alors, le pape Jean-Paul II a décidé l'ouverture des archives du pontificat de Benoît XV en 1985, qui a permis donc d'ouvrir un nouveau volet pour la recherche scientifique.
Donc, la recherche aujourd'hui concernant la Première Guerre mondiale est complètement ouverte.
Oui, c'est exact. C'est-à-dire tout le pontificat de Benoît XV, puisque Benoît XV est arrivé en septembre 1914, et est décédé en janvier 1922, donc toute la période de la Première Guerre mondiale.
Alors, vous ne vous êtes pas limité, bien évidemment, aux archives romaines. Vous êtes allé bien au-delà ?
Oui, c'est-à-dire que ce travail est une recherche en relations internationales. Donc, j'ai en effet commencé par les archives du Saint-Siège, puis je suis allée en Allemagne, où j'ai consulté toutes les archives des affaires étrangères allemandes, et ensuite en Autriche, des archives du Haushof und Staatsarchiv, qui sont les archives donc des affaires étrangères autrichiennes, puis les archives françaises. Donc, c'est vraiment un travail plutôt international qui replace la papauté dans le contexte international de cette époque, avant les traités du Latran qui lui ont accordé cette place internationale.
La place la plus importante au niveau des archives, c'est vraiment Rome. C'est là où vous avez trouvé toute la sève des choses inédites.
Oui, c'est-à-dire que les archives, les 16 volumes sur la Première Guerre mondiale n'avaient pas encore été étudiés, n'avaient pas encore été dépouillés. Et puis toutes les archives sur la question orientale, la Pologne, la Russie, l'Ukraine, ainsi que les sessions des cardinaux de la Curie, ce sont des documents inédits qui n'ont pas été vus avant et après mon passage dans les archives. Donc ce sont des sessions des cardinaux sur des thèmes très précis de la Première Guerre, et qui apporte une source incontestable de recherche.
Il existait des travaux à l'étranger sur ce sujet ou...
Il existe en Allemagne les travaux de Steglitz, Wolfgang Steglitz, qui a écrit justement sur les tentatives de paix de Benoît XV, mais alors à partir des archives allemandes et autrichiennes, et sur toutes les tentatives de paix à l'été 1917. Et bien sûr, ces recherches ont été effectuées dans les années 70, donc il n'y avait pas d'accès aux archives du Vatican.
Alors, venons-en à notre sujet. Je disais que le 3 septembre 1914, Giacomo della Chiesa était élu pape sous le nom de Benoît XV. Qui était ce Giacomo della Chiesa ?
Alors Giacomo della Chiesa est né en novembre 1854 à Gênes, d'une famille de la noblesse, par son père de la noblesse de Spolète et par sa mère de la famille Migliorati qui avait donné déjà le pape Innocent VII. Il fait des études de droit à Gênes, puis le séminaire de prêtre Capranica à Rome. Et en 1870, il reçoit les ordres sacrés. Il rentre à l'Académie des nobles ecclésiastiques. C'est une académie qui prépare les gens bien nés de l'aristocratie aux hautes fonctions de l'Église. Et en 1881, il rentre à la secrétaire d'État. Il devient secrétaire pour les affaires extraordinaires de l'Église.
C'était un grand changement parce que si mes souvenirs sont bons, Pidis, lui, était issu d'un milieu plutôt modeste. Là, il y a eu un changement de la part des cardinaux, élire un pape issu de ce milieu.
Oui, c'est exact. C'est un retour à la politique de Léon XIII. Léon XIII, donc avant Pidis, c'était un pape... l'on a dit très diplomatique, donc qui avait développé des relations avec les États et même a eu l'occasion de certaines médiations politiques, notamment dans l'affaire des Carolines. Et donc l'élection, Pidis, lui, était plutôt un pape religieux. Il a marqué son pontificat par une orientation plutôt sur l'Église et moins sur les affaires diplomatiques. D'ailleurs, sous Pie XII, Giacomo della Chiesa est devenu archevêque de Bologne. Et on a considéré à cette époque-là que c'était un bannissement. Il aurait dû devenir nonce apostolique en Espagne. Et il a été envoyé comme archevêque à Bologne. D'ailleurs, il n'a reçu que la pourpre cardinalice en 1914, qui était très, très tard.
Est-ce un pape de circonstance, au fond ? Est-ce que son élection n'est pas la conséquence du déclenchement de la Grande Guerre, qu'on ne sait pas grande, bien évidemment, à l'époque, puisqu'il n'y a qu'un mois qui s'est écoulé depuis le début de la guerre ? Et donc, n'est-ce pas un pape de circonstance ?
C'est exact qu'en plein conflit mondial, on peut imaginer que les cardinaux aient souhaité avoir un diplomate comme pape, qui puisse éventuellement négocier avec, ou du moins discuter la position du Saint-Siège dans les relations internationales. Après les années d'isolationnisme de Pie XII, il était certainement temps qu'un pape qui soit plus ouvert sur les relations internationales arrive au trône de Saint-Pierre.
Alors vous avez dit que Pidis, le futur Saint Pidis, a une orientation interne plutôt. Là, Benoît XV a une orientation tournée vers les nations. Quelle est la place de la papauté à cette époque, avant, au fond, 1914?
Bien.
Pour nos auditeurs, replacer, j'allais dire, ce contexte, et on ne peut comprendre l'action de Rome pendant la Première Guerre mondiale sans avoir à l'esprit toutes ces données de la situation romaine en 1914.
Eh bien, depuis 1870, la papauté a été privée de son pouvoir temporel, c'est-à-dire depuis l'arrivée des troupes de Garibaldi à Rome. Donc le pape n'a pas d'assise temporelle, n'a plus de territoire et les relations avec l'Italie et le monde international sont régies par la loi des garanties. C'est une loi qui reconnaît l'inviolabilité de la personne du souverain pontife, son immunité juridique et en même temps l'immunité diplomatique pour les nonces et donc la possibilité d'avoir des relations diplomatiques, mais pas de pouvoir temporel. Le pape est enfermé dans les palais pontificaux.
Le pape est enfermé, c'est un point important. D'où vient cette loi des garanties elle vient de l'Italie?
Oui, elle vient
du arrangement avec le royaume d'Italie?
Oui, elle vient du gouvernement italien, mais elle a été imposée au Saint-Siège. À l'époque, Pie IX avait refusé, s'était enfermé dans les palais pontificaux et avait refusé en fait une loi qui réduisait sa position à une peau de chagrin. Les circonstances ont obligé le Saint-Siège plus ou moins à l'accepter, même si le pape avait décidé, Pie IX, et puis après, à la suite, même Léon XIII, d'interdire aux catholiques de participer au gouvernement italien. Donc, c'était un refus, mais le Saint-Siège n'avait pas vraiment le choix.
En 1914, la situation est tendue entre l'Italie et Rome, ou bien elle est au contraire, au fond, bon, comme vous le dites, finalement Rome a accepté cette situation et cette loi des garanties.
La situation est tendue puisque au gouvernement, le président du Conseil Salandra et son ministre des Affaires étrangères Sonnino sont considérés comme des anticléricaux. Donc les relations sont tendues et vont l'être d'autant plus quand l'Italie va décider d'entrer en guerre contre l'Autriche-Hongrie. Donc c'est une situation très inconfortable. Pour le Saint-Siège. En même temps, les Italiens font très attention que c'est que la question du rôle international de du pape ne soit pas justement posée. L'Italie fait très attention que la question papale reste une affaire italienne et ne devienne pas internationale.
Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, comment réagissent les capitales européennes à l'élection de ce pape? On suppose qu'elles sont au courant, comme nous sommes au courant des futurs papabilés. On sait que Giacomo della Chiesa fait partie de ces papabilés. On connaît son parcours, les capitales le connaissent?
On le connaît, on le sait surtout qu'il avait été, je pense à l'époque, qu'il avait été banni à Bologne. Donc on le connaissait, on le savait qu'il avait fait ses années de formation sous Léon XIII. Il n'était sinon pas tellement connu puisqu'il était cardinal que depuis 3 mois, donc c'était très très récent. Et la France aurait souhaité élire le cardinal Ferrata, qui avait été un nonce apostolique en France, qu'on estimait être très francophile. La France, l'Angleterre et même l'Allemagne, l'Autriche, tout le monde s'accorde pour se féliciter de l'arrivée de ce pape. Donc il n'y a pas de notes dissonantes et l'Écho de Paris, justement, publie la première action, l'élection de Giacomo della Chiesa est un succès pour la France.
Est-ce que dès cette élection, les capitales essaient, en quelque sorte, si vous me passez l'expression, de mettre la main sur ce pape et de le rallier à leur cause?
Oui, c'est un petit peu le problème des relations entre le Saint-Siège et les États. Les États essayent toujours d'avoir une influence sur le pape et de ramener le pape à leurs propres intérêts. Donc il y a toujours en effet des tentatives d'influencer sur la politique du pape, sur la nomination des cardinaux et même du secrétaire d'État. Alors le premier secrétaire d'État qui est nommé s'appelle justement Domenico Ferrata. Et il décède subitement en octobre 14, donc un mois après être devenu secrétaire d'État, et il est remplacé par le cardinal Gaspari.
Oui, le secrétaire d'État, pour nos auditeurs, c'est un peu l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères.
C'est exact. Donc, c'est lui qui est à la tête de la secrétaire d'État et qui gère les affaires et les relations justement avec les gouvernements. En plus du ministre des Affaires étrangères, comme on pourrait l'appeler, qui est à cette époque s'appelle le secrétaire des affaires extraordinaires de l'Église.
Est-ce qu'il y a toute une structure diplomatique importante ou est-ce qu'au fond Benoît XV est le seul à décider et a le dernier mot? Est-ce qu'il y a une collégialité telle qu'on l'entendra plus tard lors du Concile Vatican II ou au contraire, est-ce que Benoît XV n'est-il pas le seul à décider de ce qui doit être dit, de ce qui doit être annoncé?
Il semble que pendant cette période justement de la guerre, il y ait une concentration du pouvoir sur justement le pape, le secrétaire d'État et le secrétaire des affaires extraordinaires de l'Église. En même temps que le pape va souhaiter demander aux cardinaux de la curie leur conseil sur des points très précis pendant la guerre. Ce sont justement les sections extraordinaires quand le pape hésite, quand il a besoin du soutien de ses cardinaux, des principaux cardinaux de la curie, il leur demande de réfléchir sur un sujet particulier. Je donnerai l'exemple au décès de l'empereur François-Joseph. Il est question d'effectuer une chapelle mortuaire à la chapelle Sixtine, que l'on fait toujours pour un souverain catholique, et en session extraordinaire, les cardinaux décident de ne pas le faire. Que cela pourrait mettre en péril la sécurité du Saint-Siège, et donc on repousse cette décision un peu plus tard.
À situation extraordinaire, en quelque sorte, pouvoir extraordinaire. Le pape tient ses troupes, en quelque sorte.
C'est exact. Même si il faut reconnaître que c'est très difficile d'avoir un regard dans les décisions, sur les décisions du Saint-Siège, surtout à cette époque.
Je reçois Nathalie Renoton, qui est l'auteur d'un livre, La Colombe et les Tranchées, paru aux éditions du Cerf cette année, en 2004. Nous nous retrouvons dans un instant.
Le maréchal Foch est connu pour être le vainqueur de la Marne lors de la Première Guerre mondiale. Mais nous connaissons moins son combat d'après-guerre et bien moins encore ses origines, sa formation intellectuelle et sa jeunesse. Qui fut donc le maréchal Ferdinand Foch ? Réponse en compagnie du biographe Jean-Christophe Notin dans l'émission « Un jour dans l'histoire ». Foch, du mythe aux réalités, une émission à télécharger librement sur le site canalacademy.com.
Un jour dans l'histoire reçoit Nathalie Renoton, historienne, spécialiste des relations internationales et auteure du livre « La colombe et les tranchées, les tentatives de paix de Benoît XV pendant la Grande Guerre » paru aux éditions du Cerf. Alors Nathalie Renoton, nous évoquions le pouvoir pontifical, nous évoquions aussi le fait qu'après son élection, il y a eu un bon accueil de la part des capitales européennes à cette élection, à l'élection de Benoît XV. Peut-on dégager une attitude constante à l'égard de la papauté de la part des belligérants ? Est-ce que le pape arrive malgré tout à influencer quelque peu ses capitales ?
Oui, le pape va réussir à pousser les capitales, plus qu'elles ne le souhaiteraient, à réfléchir sur la paix. Je pense que c'est un des grands succès de la politique du pape. Alors les relations sont définies, oui, pratiquement au départ, c'est-à-dire que vous avez une relation constante diplomatique avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, donc dans le camp des empires centraux, sont très représentés au Saint-Siège. Il y a un nonce à Munich, un nonce à Vienne, et alors du côté des alliés, les relations sont nettement plus difficiles. L'Angleterre envoie un diplomate en mission extraordinaire auprès du Saint-Siège.
C'est un geste positif, ça.
C'est un geste positif. Il envoie donc un catholique, Sir Howard. Et c'est un geste positif en même temps que Londres annonce dès le départ que ce ne sera que pendant la période de la guerre. Donc le Saint-Siège sait à quoi s'en tenir. Il n'est pas question à ce moment-là de rétablir les relations diplomatiques qui avaient été interrompues par la reine Élisabeth. Alors du côté de la France, elle aurait pu choisir de suivre l'Angleterre. Londres avait invité le gouvernement français à faire de même pour contrebalancer l'influence des empires centraux sur le Vatican, dans les cercles du Vatican. Le gouvernement français refuse, mais envoie en mai 1915, le publiciste et journaliste Charles Loiseau. Il est envoyé comme conseiller pour jeter un regard sur la politique du Saint-Siège. Il n'aura aucune fonction officielle.
La reconnaissance, enfin le retour des relations diplomatiques entre le Vatican et la France n'aura lieu qu'après la guerre, hein, c'est
oui,
ça
Oui, en 1921.
D'accord. N'était-ce pas au fond, malgré tout, une manière de reconnaître en fait ce pouvoir ou ce charisme pontifical, le fait d'envoyer en 1915 Loiseau, le fait d'envoyer Sir Howard
Oui, c'est une question complexe, parce qu'en même temps que ces capitales refusent, et en France, le gouvernement est encore assez anticlérical, le premier ministre qui sera accepté dans ce gouvernement, qui est Denis Cochin, le seul ministre catholique. Donc, on a une séparation de l'Église et de l'État depuis les lois Combes de 1905. Donc, paradoxalement, tout le monde a un regard vers le Saint-Siège. On n'accepte pas que les empires centraux soient les seuls à avoir une influence sur le pape. Donc, on a besoin d'un regard ou d'un commentaire du pape, peut-être d'un commentaire moral. Donc, c'est une position très ambiguë. D'un autre côté, le gouvernement français sera parfaitement impoli avec le Saint-Siège, et notamment lors de la note de paix, personne ne répondra.
Alors, Pidis avait été isolationniste, nous le disions. Ce n'est pas le cas de Benoît XV. Peut-on en faire un interventionniste au même titre que le sera Wilson 2 ans plus tard? C'est un peu osé?
Je pense on pourrait dire qu'il est un interventionniste dans le sens où il n'accepte pas de laisser l'Europe se détruire comme elle le fait pendant cette guerre. C'est une guerre extrêmement meurtrière. Et le pape, dès le départ, décide de lancer des appels à la paix, ce qui ne va pas être du tout accepté. En plus, il a une position très moraliste sur la guerre, en accusant en fait ce qu'il estime être les responsables de la guerre, non pas les États, mais alors l'égoïsme, le manque de fraternité. Alors c'est cette position d'ailleurs est très mal perçue en France, où on estime que le responsable de la guerre, les responsables sont les Allemands, et il n'est pas question de se remettre en cause. Donc le pape dérange. En même temps, il intervient en effet dans le conflit pour tenter de ramener la paix et aussi pour poser la question de son rôle international.
Quelle est sa position par rapport au mouvement, à l'idée nationaliste? On sait qu'il en a au fond pâti au XIXe siècle. L'émergence de la nationalité italienne et du nationalisme italien l'a chassé de ses États. Il garde une position par rapport au nationalisme, j'allais dire très dure, ou est-ce qu'il fait preuve de compréhension?
Il a une formule en mai 1915. Il dit « les nations ne meurent pas et si elles sont soumises ou si elles sont vaincues, elles gardent. » Enfin, je cite pas exactement la formule. Elles gardent un esprit de revanche. Et je crois que c'est une phrase qui permet de comprendre la position de Benoît XV, c'est-à-dire qu'il ne refuse pas la notion de nation, donc le nationalisme, mais il craint que ce nationalisme exacerbé pousse les nations en guerre, ce qui s'est certainement passé pour la Première Guerre. Et d'un autre côté, quand certaines nations ou certains peuples vont souhaiter l'indépendance et se développeront des mouvements d'autonomie, notamment en Pologne, je pense à la Lituanie, le pape va l'accepter. Il aura peut-être une position de réticence au départ, mais acceptera ces mouvements d'autonomie, voire d'indépendance, et ces mouvements nationalistes. Donc il n'a pas une position très ferme et définitif sur la question. Il s'adapte, permettant à la papauté de garder son universalité en Europe.
Dès le début du conflit, il y a un appel à la paix de la part de Rome. Mais pourtant, vous dites, Nathalie Renaud-Thon, que ces appels, en tous les cas, la prise de position, constitue pour Benoît XV un dilemme moral et politique. En quoi est-ce un dilemme moral et politique?
C'est un dilemme moral parce que le Saint-Siège ou le pape a décidé de garder une position de neutralité. Alors il appelle à la paix, il appelle toutes les nations à la paix, mais il refuse d'indiquer quelles sont les nations responsables de cette guerre. Il veut adopter une position supranationale. C'est une position très difficile à garder. Le pape n'arrivera pas d'ailleurs à tous les moments de la guerre de conserver cette position de neutralité. Quand le pape apprend que des populations du nord de la France sont déportées en Allemagne, il se pose la question, justement de la réaction qu'il devrait avoir. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il réunit les cardinaux de la curie dans une des sessions extraordinaires pour leur demander leur avis, s'il convient en effet à la papauté de garder le silence dans cette affaire. Et alors là, les cardinaux soutiennent complètement la position du pape en disant que c'est le seul moyen pour la papauté de discuter de paix, de négocier avec les différents États et de ne pas condamner l'un au profit de l'autre.
Quelle va être son action en conséquence par rapport à l'Italie? Nous l'évoquions tout à l'heure. Il va tout faire pour qu'elle reste neutre.
Oui, oui. L'Italie avait décidé en août 1914 de rester neutre et petit à petit, sous la pression de la France et de l'Angleterre, mais aussi ce que l'on a appelé à l'époque le sacro-egoismo, donc l'égoïsme sacré, fait que les Italiens ont souhaité reprendre des territoires qui appartenaient à ce moment-là à l'Autriche-Hongrie, notamment le Trentin, la ville de Trieste, et va s'acheminer petit à petit vers la guerre contre l'Autriche-Hongrie. Alors c'est un événement capital pour le Saint-Siège, c'est un grave danger pour le pape, puisque la loi des garanties 1870 ne prévoit aucune modalité en cas de guerre. Donc si l'Italie entre en guerre contre l'Autriche-Hongrie, qu'adviendra-t-il du pape? Qu'adviendra-t-il des ambassadeurs auprès du Saint-Siège? Et puis en même temps, le pape estime que l'Italie ne saisit pas à ce moment-là le danger que représente la guerre et surtout les terribles pertes humaines qu'une guerre signifie. Alors il va y avoir une double tentative d'empêcher cette guerre en faisant pression sur les Italiens, sur le gouvernement italien par l'intermédiaire justement de la frange catholique du gouvernement italien. Et ce qui est assez peu connu, c'est une intervention auprès de Vienne pour tenter d'obtenir des Autrichiens qu'ils renoncent au Trentin et à Trieste. Et François Joseph va refuser de consentir à ces cessions de territoire. Alors, vers la fin, au moment où l'Italie est prête à rentrer en guerre, il va accepter, et puis ce sera trop tard, les Italiens voulaient beaucoup plus que Trentin et Trieste.
La papauté va toujours essayer, dans les perspectives de paix, de pouvoir faire partie justement de cette conférence de paix, d'être en quelque sorte l'arbitre.
Ce n'est peut-être pas le but premier, justement, de ces tentatives de paix, mais c'est vrai que le pape va tenter de renverser d'abolir cet article 15 du pacte de Londres et de vouloir participer à la conférence de paix, non pas seulement pour poser la question romaine. Je crois que très vite le Saint-Siège va être conscient qu'il n'aura aucune chance de poser la question romaine. Aucun des alliés, que ce soit les alliés ou les empires centraux, ne poseront la question romaine dans la conférence de paix. Mais il souhaite une paix juste, une paix négociée. Et le pape estime que sa présence pourrait peut-être permettre justement d'éviter ce qui s'est passé à Versailles.
Un jour dans l'histoire reçoit Nathalie Renoton-Beine, auteur du livre La Colombe et les tranchées, les tentatives de paix de Benoît XV pendant la Grande Guerre, paru aux éditions du Cerf. Alors Nathalie Renoton, nous évoquions ce pouvoir temporel du pape, et une des révélations de votre ouvrage, de vos travaux, c'est de montrer que le pape et Rome va essayer de retrouver un pouvoir temporel, ne serait-ce que symbolique.
Oui, c'est exact. Le pape va essayer d'ameuter ses troupes et de demander justement aux nonciatures et même aux églises locales de ne pas oublier la situation inconfortable et la situation impossible du pape dans les relations internationales. Donc il y aura même une circulaire adressée aux nonces de demander justement de manière discrète à leur gouvernement de ne pas oublier la question romaine. Et ces demandes vont amener surtout les empires centraux à réagir. Évidemment, l'Italie, appuyée par la France et l'Angleterre, ne va jamais évoquer la question romaine pendant toute la guerre. Mais par contre, les Allemands, surtout les Allemands, vont tenter de récupérer la question romaine pour déstabiliser l'Italie. Alors, il y aura une fameuse proposition, celle du Liechtenstein au pape. C'est une question qui n'a jamais été découverte jusqu'à présent, puisqu'elle se trouve dans les archives allemandes à Coblence et mal rangées d'ailleurs. Donc, Matthias Erzberger, qui est un député du centre catholique allemand, va tenter d'obtenir de la maison du Liechtenstein qu'il laisse leur territoire au pape sous la forme d'un cadeau pour permettre au pape d'avoir un pouvoir temporel.
Mais cela ne se fera pas.
Cela ne se fera pas. Le pape sera très intéressé par cette question. Et puis, il y aura un revirement de dernière minute, puisque le Saint-Siège va décider de reculer et de ne pas accepter cette offre. Surtout parce que les princes du Liechtenstein souhaitent certes accorder des territoires au pape, mais de ne pas renoncer à leur souveraineté sur ce territoire. Sur ce territoire. Je pense que la papauté a eu un peu peur, le Saint-Siège a eu un peu peur que cette affaire soit divulguée dans la presse. Donc il y aura un recul. Le gouvernement espagnol aussi va proposer au pape d'obtenir un territoire. Et puis très vite, le Saint-Siège sera conscient, le pape va s'apercevoir que c'est un moyen pour les Allemands de faire pression sur l'Italie, donc de récupérer la question romaine à leur profit. Et le secrétaire d'État, donc le cardinal Gasparri, va faire comprendre aux Allemands qu'il ne souhaite plus qu'il soit question que l'on parle de la question romaine jusqu'à la fin de la guerre. Donc c'est une décision très définitive à partir de 1916.
Ouais, le Saint-Siège maintient malgré tout sa neutralité. Ceci dit, il doit toujours défendre les intérêts de l'Église. Comment cela se traduit-il ? Ailleurs, en tous les cas ailleurs, non pas ailleurs, mais en dehors de cette question du pouvoir temporel.
Eh bien, il y aura plusieurs questions qui inquiètent énormément le Saint-Siège, et notamment pour la position de l'Église catholique dans le monde. Je pense à Constantinople, le risque que les Russes arrivent à Constantinople était réel. En mars 1915, le ministre des Affaires étrangères russe, Sazonov, avait obtenu du gouvernement français et anglais que la Russie obtienne la ville de Constantinople en même temps que la rive occidentale du Bosphore. Donc c'était en effet un réel danger. Et quand les troupes du général Broussilov vont s'approcher très près justement de la Turquie et que la porte arménienne sera prise par les troupes russes, le Saint-Siège aura très peur, en effet. Et la secrétaire d'État va réagir, je dirais, sous un vent de panique en proposant une solution qui peut sembler presque farfelue, puisque le Saint-Siège imagine d'approcher les Allemands et de proposer que les troupes bulgares entrent à Constantinople pour permettre aux Turcs de repousser les troupes russes. Donc c'est une proposition que les Allemands ne vont pas accepter et que le Saint-Siège va très vite retirer. Donc c'était, oui, certainement un mouvement de panique.
On sent quand même à vous lire que le Saint-Siège marche sur des œufs, parce que d'un côté il y a des catholiques allemands, de l'autre côté il y a des catholiques français. Il est assez dur, devant une telle situation, de protéger ses ouailles.
Oui, c'est une situation très inconfortable, en effet, parce que vous avez des catholiques dans chaque camp. Et en même temps, il y a bien sûr la crainte de l'orthodoxie, la crainte du protestantisme qui est encore très forte, la crainte que la Pologne, justement, soit coincée entre, d'une part, la Russie orthodoxe et l'Allemagne protestante. Donc ce sont de réelles craintes. Et quand les Russes vont justement envahir la Galicie orientale, qui appartient à l'Autriche-Hongrie à ce moment-là, peuplée par les Uniates, vous savez, les Uniates qui sont une église de rite oriental, de rite orthodoxe, mais reconnaissant le dogme catholique et le pape, sont considérés par les tsars russes comme un danger, puisqu'ils allient à la fois le rite slave et la papauté. Et donc, quand les Russes vont arriver en Galicie orientale, ils vont déporter par centaines de milliers les Uniates en Sibérie. Donc c'est en effet un réel danger pour le Saint-Siège.
Mais il n'y a jamais de la part du Saint-Siège de condamnation nette. Vous citez le cardinal Gaspari qui disait « Le Saint-Siège ne peut condamner que lorsqu'il est certain autant du droit que du fait, et la certitude des faits ne se fait pas par la seule affirmation d'une partie en niant l'autre. » C'est une phrase toute diplomatique.
Oui, c'est exact. En fait, c'est aussi une manière pour le Saint-Siège de ne pas condamner, de reculer.
Mais il ne cherche pas d'excuses. Il y a cet exemple terrible que vous donnez, ces sœurs violées en Belgique par un corps de troupes allemand. Et le pape veut être sûr avant toute condamnation que ce qui s'est passé s'est bien passé. Et ensuite, d'ailleurs, il demande des comptes à l'Allemagne, mais il le fait, j'allais dire, non pas dans le secret, mais il ne le fait pas publiquement.
Oui, en effet, je pense que le Saint-Siège ne veut pas la polémique. La polémique est plus dangereuse qu'elle n'apporte d'effets positifs. En effet, c'est un exemple terrible et c'est une volonté pour le Saint-Siège de ne pas condamner, mais c'est aussi une reconnaissance que le pape, dans sa situation, dans la situation dans laquelle il est, il ne peut pas avoir un jugement parfaitement, parfaitement neutre, c'est-à-dire qu'il obtient des informations qui sont très différentes d'un côté ou de l'autre. Et justement, les archives du Saint-Siège débordent de rapports venant de toutes parts, dénonçant les exactions des Allemands en France, en Belgique et du côté des Allemands, l'attitude des troupes plus tard, l'attitude des troupes françaises, le blocus économique. La question du blocus économique, pour le Saint-Siège, est un réel problème. En effet, pourquoi affamer des millions de gens? Les Français, enfin les Alliés, réagissent à cette position, ne comprennent pas cette position de neutralité. Mais c'est en effet très difficile.
Est-ce que dès lors le pape ne se cantonne pas dans une action purement humanitaire et au fond il se dit que politiquement il n'y a rien à faire ou peu à faire? Est-ce qu'il se dirige uniquement vers cet aspect humaniste?
En public, oui. En public, en effet, le pape va s'orienter sur cette politique surtout humaniste. Et alors, par contre, en secret, par l'intermédiaire des nonces, par l'intermédiaire des diplomates, la secrétaire d'État va être particulièrement active et tenter de trouver des solutions qui puissent ramener la paix en Europe, des propositions concrètes. C'est, je crois, ce qu'il fait l'aspect unique de Benoît XV pendant cette guerre, c'est de chercher absolument un compromis qui puisse pousser les nations à des discussions et à des négociations de paix.
Vous le montrez quand même, vous dites qu'il reste dans une position de neutralité, vous le montrez quand même doutant du bien fondé de la position allemande, de la position austro-hongroise. Vous intitulez un de vos chapitres « Les doutes de Benoît XV ».
Oui, c'est exact.
Un de vos sous-chapitres, pardon.
C'est exact, c'est justement le... Nous parlions de cette fameuse session à propos des déportations des populations du nord de la France. En effet, le pape doute, et le secrétaire d'État le dit aussi. On peut dire qu'il y a un partage des responsabilités. Ceci dit, il le dit tout à fait clairement, qu'il est inéluctable que la plupart des responsabilités seront du côté des Allemands. Il le dit, mais d'un autre côté, même si le pape souhaiterait une condamnation des exactions allemandes, des massacres, et, il a besoin de l'Allemagne pour sa politique de paix. Le Saint-Siège n'a des relations qu'avec les empires centraux, des relations diplomatiques. Il sait fort bien que la paix ne peut venir que de l'Allemagne, du côté de la France, surtout de la France et de l'Angleterre, qui ont décidé la guerre jusqu'au bout. Il n'a aucune chance d'obtenir une renonciation à l'Alsace-Lorraine, par exemple. La France n'aurait jamais admis de renoncer à l'Alsace-Lorraine.
Il le comprend bien, ça.
Et ça, il le comprend bien, je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'il doit l'admettre, mais il ne le comprend pas. Je crois qu'il y aura de toute façon des tentatives d'un plébiscite en Alsace-Lorraine. Le Saint-Siège aurait souhaité en effet que peut-être l'Allemagne et la France s'entendent en Alsace-Lorraine pour se partager le territoire. Et il doit bien admettre que la France le refusera. Et comme le Saint-Siège n'a aucune possibilité d'action envers les Alliés, il va reporter toutes ses chances de succès vers l'Autriche-Hongrie et vers l'Allemagne surtout.
Toute paix suppose aussi le retrait des troupes allemandes de la Belgique. Ça, il le voit aussi.
Oui, la question belge est la question essentielle, la clé du conflit pour le Saint-Siège. Elle le devient à partir de la fin de l'année 1916, quand l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie proposent la paix. Le Saint-Siège dit, le secrétaire d'État donc, dit, il n'y aura de paix que quand l'Allemagne aura décidé de quitter le territoire belge et de rétablir la Belgique dans sa souveraineté absolue. Les Allemands ne sont pas contre. Le chancelier à l'époque, Bethmann-Hollweg, n'est pas contre le retrait des troupes et ne souhaite pas de réparation, ne souhaite pas rester en Belgique. Seulement, il estime que la Belgique fait partie d'un tout, des buts de guerre allemands, et ne souhaite pas détacher la Belgique du reste, puisque c'est un atout pour les Allemands, la Belgique. Du côté du Saint-Siège, on estime que si les Allemands partent de la Belgique, l'Angleterre n'aura plus de raison de rester dans le conflit puisqu'elle a déclaré être entrée en guerre à cause de la violation de la neutralité belge. Donc si l'Angleterre quitte le conflit, la France serait obligée de la suivre et ce sera la fin de la guerre.
Alors il y a une autre révélation, en tous les cas ça a été une révélation pour moi dans votre livre, c'est cette question austro-hongroise. Le pape est très... on aurait tendance à croire qu'il est très proche de l'Autriche-Hongrie. Alors vous avez dit qu'il était proche diplomatiquement parlant, mais le sentiment religieux, le sentiment catholique, la réalité catholique autrichienne n'est pas forcément un lien, ne permet pas forcément un lien avec Rome.
Alors les liens sont étroits en effet avec la monarchie austro-hongroise, donc le grand pays catholique, mais je crois qu'en effet, d'ailleurs l'historiographie a surestimé cette importance. On a dit justement que la papauté avait voulu absolument défendre l'Autriche-Hongrie, donc que sa politique de paix ne visait qu'à défendre cet empire. En fait, il faut vraiment relativiser cette relation. Le fait d'être un empereur catholique ne permet pas ni à François-Joseph ni à Charles Ier d'imposer leur politique à la papauté. C'est-à-dire que le pape estime que justement le fait d'être un empire catholique leur permet des droits mais aussi des devoirs. Et je pense que c'est ça le principal que l'on peut remarquer dans les relations notamment entre Benoît XV et Charles Ier. Charles Ier est un très jeune empereur. Il arrive en novembre 1916, donc en pleine guerre. Il a été écarté par François-Joseph de toutes les décisions qui ont été prises par le gouvernement italien, le gouvernement autrichien, pardon, jusqu'à cette époque. Donc il est très peu formé en matière politique. Et il réaffirme sa filiation avec le Saint-Siège, mais quand le pape lui demande à plusieurs reprises de renoncer au territoire, notamment toujours cette question de Trentin et Trieste, Charles Ier se montre à plusieurs reprises favorable et recule. N'accorde pas ce que les Italiens et donc n'accorde pas ce que le pape souhaiterait de lui.
Ça va même plus loin, parce que nous en parlions tout à l'heure, il n'est pas contre le principe des nationalités, le principe d'émancipation, notamment de la Pologne et des autres nationalités qui font partie intégrante de l'Empire austro-hongrois.
Je pense que le Saint-Siège aurait souhaité, de toute façon aurait souhaité conserver l'Empire austro-hongrois tel qu'il était. Un éclatement n'était pas favorable à l'Église catholique, n'était pas favorable à la monarchie, et puis l'éclatement de l'Autriche-Hongrie a aussi amené la chute de la monarchie austro-hongroise. Donc l'Autriche-Hongrie est une exception dans ce contexte-là. Je ne pense pas que le pape ait souhaité la constitution de nouveaux pays, mais plus d'autonomie au sein des nations, certainement. Et d'ailleurs, c'est ce que souhaitait Charles Ier.
Wilson, au mois de janvier 1917 ou 1918, le souhaitait également, au fond.
En effet, c'est plus d'autonomie, mais pour le Saint-Siège, plus d'autonomie, mais au sein d'un empire. Mais le respect, en effet, le respect de la volonté des peuples sein des empires.
Il va y avoir une dernière intervention publique, c'est la fameuse intervention publique du 1er août 1917, l'appel à la paix. C'est ce que nous verrons après une dernière pause.
Qui fut vraiment la duchesse de Berry? Une aventurière? Une écervelée? Une sentimentale exaltée par ses lectures? Dans la biographie que lui consacre Jean-Joël Bréjon, l'auteur l'aborde en héroïne romantique, un portrait pittoresque et attachant à l'image de la duchesse. La Duchesse de Berry, romantique ou romanesque, un portrait un jour dans l'histoire, à télécharger librement sur canalacademy.com.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Nathalie Renoton, auteure du livre « La colombe et les tranchées, les tentatives de paix de Benoît XV pendant la Grande Guerre », paru aux éditions du Cerf en 2004. Alors, Nathalie Renoton, le 1er août 1917, Benoît XV s'adresse publiquement, à nouveau, au chef des peuples belligérants. C'est la fameuse note de paix. Quel est le contenu de cette note de paix ?
Alors le contenu de la note de paix, il faut un petit peu reprendre les conversations de Mgr Pacelli. Pacelli est arrivé à l'annonciature de Munich. Le futur Pie XII est arrivé à Munich, donc à l'annonciature de Munich en avril 1917. Et son premier désir va être d'aller à Berlin et de discuter avec... justement le gouvernement allemand sur les possibilités de paix. Alors il y ira deux fois, il y ira en juin, à la fin juin 1917, le 26 juin exactement, il va rencontrer le chancelier Bethmann-Hollweg, et là, Pacelli va lui demander finalement quels sont les buts de guerre allemands, pourquoi l'Allemagne poursuit la guerre, et quelles seraient les conditions pour lesquelles l'Allemagne envisagerait justement de cesser le combat. Alors, Bethmann-Hollweg reprend plusieurs points qui avaient été développés par Gaspari, déjà le secrétaire d'État au début de l'année. Il parle de la liberté des mers, du désarmement, de l'arbitrage, de restitution des colonies. Et ce sont des thèmes qu'a déjà donc repris le Saint-Siège. Ce sont des thèmes qui viennent de Wilson, des impressions du Saint-Siège, de la secrétaire d'État, que ce sont des points sur lesquels les belligérants pourraient s'entendre et ce pourrait être le départ de conversations de paix. Alors on retrouve ces points-là justement pendant la note de paix. Donc pour la note de paix, le cardinal Gaspari, donc, arrive fin juin à Berlin, retourne un mois plus tard, et entre les deux, on assiste justement à la chute du gouvernement allemand, l'arrivée en force des militaires du général Hindenburg et Ludendorff, qui font pression sur le gouvernement allemand. et toutes les idées de paix qui avaient été amenées justement par Gaspari vont être petit à petit remises en cause par l'Allemagne.
Alors c'est pour cette raison, vous expliquez dans votre livre, que le pape intervient tout de suite, et alors qu'on aurait pu encore un peu attendre avant d'avoir cette déclaration, de cette note de paix, eh bien il intervient dès le 1er août.
C'est exact. Donc à la fin du mois de juillet, lorsque Pacelli quitte Berlin, la rencontre avec le nouveau chancelier Michaeli s'est bien passée, bien que Pacelli imaginait de ce qu'il appelait ce protestant et piétiste froid fonctionnaire qu'il n'aurait aucune sympathie pour le Saint-Siège, mais Michaeli s'est montré chaleureux, s'est montré disposé à discuter, et beaucoup plus d'ailleurs auprès du nonce que la réalité du gouvernement allemand, c'est-à-dire qu'il va dire au nonce, oui, ces propositions, hormis quelques exceptions, sont acceptables pour le gouvernement allemand, et d'après les archives allemandes, on voit très bien qu'il n'en est rien. Il n'est pas question d'un désarmement, les militaires ne l'accepteraient jamais, l'arbitrage international non plus, et certes, l'Allemagne est décidée d'évacuer les territoires français et belges, mais l'Alsace-Lorraine, il n'est pas question de la céder aux Français. Donc le Saint-Siège s'aperçoit, la secrétaire d'État, à la fin du mois de juillet, s'aperçoit que les Allemands sont en train de remettre en question tous les points que le pape avait prévu d'indiquer dans sa note de paix, et décide très rapidement de publier cette note. Donc elle est datée du 1er août et elle arrivera aux belligérants le 9 août, le jour où les Allemands répondront au point, ce qu'on a appelé les 7 points de Gaspari, sur ces tentatives de paix. Et donc le Saint-Siège s'est sauvé à la dernière minute, a reculé pour éviter que l'Allemagne ne donne son point de vue.
Alors l'Allemagne agit de la sorte, mais au fond les autres puissances ne vont pas répondre à cet appel.
Voilà, alors du côté des Anglais et des Français, la note dérange tout le monde. Les Anglais n'avaient pas été pressentis dans cette affaire, les Français non plus. Wilson est excédé. En effet, il y a à ce même moment beaucoup de conversations secrètes entre les Français, les Allemands, les Autrichiens. Wilson aussi a ses idées de paix, a lancé à plusieurs occasions justement des points très précis sur la paix, et la note de paix de Benoît XV dérange tout le monde. Alors à Londres, les Anglais, paradoxalement, sont peut-être ceux qui ne voudraient pas rejeter la note de paix du pape. Ils aimeraient bien quand même entendre ce que veulent les Allemands, au moins entendre les buts de guerre, et décident d'envoyer une réponse provisoire sans consulter le gouvernement français. Alors en France, Ribaud explose, est furieux que les Anglais aient décidé d'une réponse provisoire sans les consulter. Alors pour ne pas envoyer une deuxième note, le gouvernement français décide de s'allier à la réponse provisoire anglaise, tout en indiquant qu'il refusait de rentrer dans une quelconque négociation avec les Allemands. Et puis la note de paix dérange, puisque donc le pape parle de la liberté des mers, du désarmement, l'arbitrage, mais dit qu'à la conférence de paix réglera les divergences économiques, mais aussi les divergences de territoire. Il n'est pas question de l'Alsace-Lorraine.
Alors Nathalie Renoton, nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce que, j'aurais deux dernières questions, est-ce que l'impuissance pontificale, au fond, est une étape supplémentaire dans la décadence du pouvoir pontifical en matière de relations internationales, une décadence qui commencerait, je dirais, avec les traités de Westphalie de 1648, ou bien au contraire, est-ce qu'on annonce un renouveau du Saint-Siège sur la place des relations internationales?
Oui, je pense justement qu'on ne peut pas parler de décadence, qu'au contraire, avec l'arrivée de Benoît XV et le fait que malgré sa situation non éclaircie d'un point de vue international, il n'a pas hésité à se lancer dans l'arène politique et justement élever la voix ou tenter des négociations, tenter de se rapprocher des États. Et sa politique internationale, je pourrais dire, est le début de la papauté du XXe siècle, des interventions des papes dans des conflits pour éviter des conflits. Je ne pourrais pas exactement citer quelle date, mais Jean-Paul II s'est référé justement à l'intervention de Benoît XV. Et quand on voit l'intervention du Saint-Siège, justement, pour éviter la guerre en Irak, on ne peut que repenser à celle de Benoît XV pour éviter justement l'élargissement du conflit. On en a à peine parlé, mais d'abord l'élargissement du conflit mondial et une tentative de ramener la paix pendant la Première Guerre mondiale. Donc je pense que justement, grâce à Benoît XV, le Saint-Siège a été reconnu sur la scène internationale, ce qui a permis les accords du Latran de 1929.
Mais alors pourquoi au fond, et j'en viens à ma deuxième question, on ne peut s'empêcher à vous lire de penser au silence de Pie XII pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que ce silence n'était pas la conséquence de ce qu'avait vécu Eugenio Pacelli pendant la Première Guerre mondiale?
C'est une question que je me pose moi-même, donc je pense qu'on peut donner une tentative de réponse justement à l'attitude de Pie XII pendant la guerre, puisque Pacelli était secrétaire des affaires extraordinaires de l'Église, donc ministre des affaires étrangères, jusqu'à son arrivée à la nonciature en Allemagne, donc en 1917. Donc il a en effet baigné dans cette atmosphère de la Première Guerre mondiale et dans la difficulté qu'a éprouvé Benoît XV de trouver une ligne médiane, de défendre sa neutralité, et malgré les appels et surtout des alliés à condamner l'Allemagne. Je pense que cette politique a en effet influencé Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale et est une explication en effet à certains silences malgré les exactions allemandes. C'est pire que ça, je pense que, alors c'est une position qui est tout à fait discutable et discutée, mais qui trouve certainement ses sources dans la Première Guerre mondiale.
C'est une question que nous avions abordée à ce micro avec Philippe Chenot. Nathalie Renoton, je vous remercie.